Eh bien, on a vu pas mal de passages sur la prière et pas mal d'idées sur la prière. Je pense que vous avez noté que combien la prière est importante et combien la vie chrétienne sans prière n'est pas vraiment la vie chrétienne. C'est un chrétien est ou une chrétienne est une personne qui vit une vie de prière. Ce n'est pas simplement quelque chose d'accessoire. Mais la prière est une véritable réalité dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas simplement une action que l'on se permet de temps en temps quand il y a des problèmes, mais la prière, c'est constamment, à chaque instant de nos vies. Quand Paul disait prier sans cesse, ça voulait dire vraiment prier sans cesse. Ça veut dire d'avoir un esprit de prière, avoir un cœur qui est dans la prière, une attitude de prière. La relation avec Dieu est une relation de prière, c'est-à-dire que nous sommes dans la vie de tous les jours, eh bien, des hommes et des femmes de prière. Doit être aussi facile de prier que de respirer. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. On pense souvent que la prière, c'est dans une réunion de prière, ou bien que c'est le matin avant de se lever, ou le soir en se couchant, ou que nous prions avant le repas, ou pour demander la bénédiction de Dieu sur certains sujets, ou parce qu'il y a un problème, nous avons prié. Mais la prière, c'est la vie normale d'un chrétien. Chaque instant, nous vivons la prière. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans prière. Quand nous sommes dans la vie de tous les jours, nous sommes de plein pied dans la vie de prière. Vous êtes dans le métro, vous êtes en prière, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous êtes en train de prier en même temps. Vous avez une relation avec Dieu qui est une vie de prière. Nous pensons à la prière souvent comme quelque chose de ponctuel. C'est à un certain moment que nous devons prier ou que nous prions. On prie même, je peux dire, sans même s'en rendre compte. Nous n'imaginons même pas. Je me rappelle, c'est la première fois où la chose m'est arrivée, donc je m'en souviens bien parce que c'était la première. J'allais au travail et j'étais sur mon vélo. Je venais juste de me convertir. Il y avait peut-être 2 ou 3 jours que j'étais chrétien. Et j'étais tellement dans une joie tellement grande que j'étais en train de rendre grâce et de louer le Seigneur. Mais je me suis dit, mais tu pries? Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais en train de prier, de louer le Seigneur et de lui rendre grâce. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même étrange ça, ce qui t'arrive là. Parce que ce n'était pas mon habitude. En tant qu'inconverti, la prière n'avait absolument aucun sens pour moi. Oui, j'aurais bien adressé quelques prières. Le Seigneur permet que je ne sois pas trop en retard. Ça, c'était une prière que je faisais facilement. Comme je n'étais pas toujours très très à l'heure, donc je priais, Seigneur, que je n'ai pas d'empêchement et que raccourcis le temps ou rallonge-le comme tu veux, mais fais en sorte que je sois à l'heure ou que quelqu'un soit plus en retard que moi. Et je me satisfaisais de petites pensées de ce genre. Mais en fait, la vie chrétienne, c'est une vie de prière. Et là, nous avons la deuxième prière de Néhémie. Eh bien, ce n'est pas une prière. Le verset 4 du chapitre 2, priez le Dieu des cieux. Et je répondis, je priais le Dieu des cieux. Voilà. Et il ne dit même pas ce qu'il a dit dans sa prière. Qu'est-ce qu'il a demandé? On peut se poser la question. Mais en fait, ce qu'il a peut-être demandé, donne-moi les paroles que je dois dire à cet homme. Donne-moi de dire clairement ce que je dois dire. Dispose le cœur de cet homme. Je ne sais pas, il y a des multitudes de possibilités, mais ce que je trouve notable, c'est que il arrive à une situation difficile et il prie. Je me rappelle à plusieurs reprises avoir été dans ce genre de situation où j'ai dû prier, j'ai dit Seigneur, interviens, parce que il faut que tu interviennes maintenant. Je me rappelle une fois, j'étais en danger. J'étais avec un lot de jeunes filles, j'étais moniteur d'enfants, donc j'étais allé voir un film et ça se terminait tard et le retour était à pied, il y avait 2 kilomètres à peu près à faire, on passait devant une caserne et l'homme des casernes n'est pas toujours l'homme civilisé que l'on pense et alors à un certain moment passant avec toutes les craintes que vous pouvez penser, eh bien dernièrement j'ai entendu des chaussures à clous qui marchait derrière. Et alors j'ai dit aux jeunes filles, vite, vite, on avance, hein. Et alors, bien sûr, elles ont avancé plus vite. Mais j'entendais les chaussures à clous qui avançaient plus vite. Alors là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu interviennes, parce que dans 5 minutes, il y a un problème. Il y a un grave problème. Je ne suis pas capable de maîtriser. Je ne sais pas comment faire. Et alors, à ce moment-là, il y a une voiture qui est arrivée, qui s'est garée le long du trottoir. Et c'était à l'époque, hein, ça date, une 404 familiale. Une voiture de 8 places. Vraiment l'idéal. Et alors, quelqu'un qui a baissé la vitre, qui m'a dit, Monsieur le pasteur, ah, je n'avais rencontré cette personne qu'une fois dans ma vie, je ne l'ai plus jamais rencontré après. Cet homme s'est arrêté à côté. J'ai dit, oh, c'est vous. Il m'a dit, je vous raccompagne. Il y a une jeune fille avec moi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. La voiture est grande. On fait rentrer tout ce monde et on est arrivé sain et sauf. C'était une délivrance miraculeuse. Je peux dire que le Seigneur, à ce moment-là, a répondu miraculeusement. Si vous ne croyez pas au miracle, alors vous avez tort. Parce qu'il y a des circonstances. On dit, Seigneur, interviens, parce que là, il n'y a plus de solution humaine. Je me rappelle une fois, j'étais en train de parler avec un occultiste, quelqu'un qui était, c'est le plus grand spirite, bon, il est décédé maintenant, mais c'était le plus grand spirite de la région de Perpignan. Il regardait une voiture, et la voiture avait un accident. Il tenait une orange dans sa main, et elle se desséchait, elle devenait... J'ai vu les oranges. Je peux vous dire que j'ai vu cet homme, je le connaissais bien. Un jour, il me donne un petit bout de papier. Je témoignais, donc je lui parlais du Seigneur. Il me donne un petit bout de papier, il me dit, vous savez, parce qu'il avait en plus, il avait le don de guérison. Alors, il guérissait pour le bien. Alors, il me disait, mais j'ai un papier sur lequel j'ai eu une prière en latin pour guérir. J'aimerais bien savoir ce qu'elle veut dire. Et au fond de moi-même, il y a quelque chose qui me disait, ne prends pas ce bout de papier. Et j'ai vu un accident, je me voyais dans un accident au fond du ravin, parce qu'il y avait, entre le Perpignan et l'endroit où j'étais, il y avait une centaine de tournants. Je les ai comptés, il y en avait 99. Maintenant, il n'y est plus, hein, c'est quatre voies. Je me voyais au fond d'un ravin. Et alors, j'ai prié, et cet homme, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas comment refuser ce bout de papier. Je lui ai dit, j'ai eu la réponse à ce moment-là. Je lui ai dit, écoutez, j'ai des livres de latin, dictionnaire et grammaire. La prochaine fois que je viens, je vous les apporterai, je vous montrerai comment vous devez faire pour pouvoir savoir ce qui est écrit sur ce papier. Mais en attendant, gardez le papier. C'était la réponse que je lui ai donnée. Et il n'a pas insisté. Pouf, tout est parti comme ça. Il n'avait plus de. Il a mis toute son énergie à me demander ça. Et la fois suivante, bien sûr, c'est sur la route que je me suis rendu compte, tu n'as pas apporté les livres. Alors, bon, ben, j'ai dit tant pis, je m'excuserai, je lui dirai que j'y ai pas pensé, j'ai oublié. Et alors cet homme m'a dit, je dois vous demander pardon. Parce qu'il y avait une certaine amitié qui s'était installée entre nous. Il m'a dit, je dois vous demander pardon. Parce que le papier que je voulais vous donner, c'était un ensorcellement pour que vous ayez un accident et que vous tombiez dans le ravin, sur votre route. Et il a avoué son péché. Et en fait, le Seigneur a délivré. Il m'avait donné exactement les mots qu'il fallait. Et c'est tombé, ses mots, ses paroles sont tombées comme ça. Il n'y avait plus de force, parce que c'était la réponse qui venait de Dieu, et il se trouvait sans force. Je dois ajouter, je ne vais pas vous terminer toute l'histoire, mais cet homme s'est converti. Il est devenu un enfant de Dieu. Et un jour, on a brûlé toutes ses idoles, toutes ses fétiches, ses trucs, ses amulettes, ses machins et choses. Et il est devenu un enfant de Dieu qui a glorifié le Seigneur pendant plusieurs années, et un jour, il est parti. Et nous allons le retrouver un jour dans le ciel. C'est une âme précieuse que Dieu a sauvée, arrachée à la puissance démoniaque. Je me rappelle un jour, j'étais dans le marais et j'ai vu deux ombres qui se sont heurtées. Et j'ai vu qu'une des ombres, c'était un juif. Et l'autre, c'était quelqu'un qui haïssait les juifs sans doute. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les paroles qu'il faut, parce qu'il faut que j'intervienne à ce moment-là. Et l'homme qui avait bousculé se mettait à crier, à faire des histoires. Et j'ai dit, Monsieur, je vous ai vu. C'est vous qui êtes coupable. C'est vous qui avez fait ce qui est bousculé cette personne, cet homme juif. Et vous êtes un raciste. Et je vous demande maintenant de partir. Et il est parti. Il n'a rien répliqué. Je peux dire dans plusieurs circonstances, il y a des moments où on dit, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi les paroles, interviens, dirige-moi, conduis-moi. Combien de fois nous avons besoin d'adresser une prière à Dieu? Et on n'est pas obligé, comme ce Néhémie, on n'a pas à dire, mais voilà, j'ai prié, j'ai dit ceci et cela. Eh bien, c'est normal. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans une situation où on est confronté à un problème ou à dire quelque chose qui on ne peut pas, on n'a pas une deuxième chance. Il faut que, à ce moment-là, nous ayons les paroles, les mots qu'il faut, et que ça aille plus loin que certains, tous les raisonnements humains. Et alors on dit, Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, donne-moi les paroles. Sois ma force. Encourage-moi. Dis ce que tu as besoin de dire à cet homme, ce que cet homme ou cette femme a besoin d'entendre. Il a besoin d'entendre des paroles qui viennent de toi. Et nous avons cette possibilité que celui qui a fait la promesse, que quand on nous mènerait dans des tribunaux, eh bien nous n'avions pas à nous inquiéter de ce qui devait nous être, ce que nous allions dire, mais que sur le moment, l'Esprit de Dieu nous donnerait les paroles qu'il faudra dire. Alors, dans ces moments difficiles, ces moments où nous sommes comme devant un tribunal, où on ne peut pas rater l'occasion, pas une deuxième possibilité, il faut convaincre maintenant et pas un autre moment, eh bien on dit Seigneur, accompagne-moi, Seigneur, donne-moi les paroles, Seigneur, donne-moi la foi qu'il faut pour croire dans une telle situation. Et alors, on le dit, et le Seigneur intervient, il nous accompagne, et il a fait la promesse. Notre réponse à la parole de Dieu, c'est la foi. Dieu a dit. Et nous voyons que Néhémie n'était pas chrétien, mais il a agi selon la parole de Dieu. Et nous retrouvons cette attitude dans le Nouveau Testament et adressée à nous, chrétiens. Nous aussi, nous devons agir de la même manière, parce que nous avons le même Dieu. Néhémie n'était pas chrétien, mais il était croyant dans le vrai Dieu. Et il s'adressait au vrai Dieu, comme nous nous adressons au vrai Dieu. Et c'est quelque chose de précieux que de pouvoir s'approcher de Dieu en toutes circonstances, n'importe quel moment, et dire Seigneur, accompagne-moi, Seigneur, donne-moi les mots. Nous devons avoir cette foi et cette confiance que dans la confrontation avec des personnes que nous redoutons parfois, où on est rempli de respect ou de crainte, eh bien on est accompagné, Dieu est capable de nous donner et il nous donnera les mots qu'il faut, les paroles nécessaires. Donc c'est cette deuxième prière qui n'en est pas une, hein. C'est en fait c'est très bizarre que moi je l'ai mis dans les prières, mais ce n'est on ne sait même pas les paroles que Néhémie a prononcées. Et puis ensuite, eh bien la troisième prière plutôt, eh bien c'est Néhémie au chapitre 4, versets 4 et 5. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi. C'est une parole dure. Dieu ne nous a pas demandé de prier de cette manière-là. Dans l'Ancien Testament, il y a des prières de ce genre, mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous enseigne que nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent, que nous devons bénir et ne pas maudire, que nous devons rechercher le bien de ceux qui nous ont fait du mal. Dans la situation de Néhémie, il faut replacer tout cela dans le contexte. Néhémie ne parle pas par rapport à lui, mais parle par rapport au peuple d'Israël. C'est en fait des ennemis d'Israël. Ce ne sont pas les ennemis d'un homme, ce sont les ennemis d'Israël. Et si on ne réagit pas par rapport à Israël, comment on réagit par rapport à un peuple, par rapport à un homme? C'est du peuple de Dieu qu'il s'agit. Et donc Dieu avait prononcé des jugements sur ceux qui seraient ennemis d'Israël. Donc nous pouvons concevoir que Néhémie a prié selon les jugements que Dieu avait prononcés pour ceux qui étaient les ennemis d'Israël. Nous, de temps en temps, eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, et vois comment nous sommes méprisés, vois comment nous sommes maltraités, comment des personnes agissent mal envers nous. Seigneur, eh bien, nous pouvons prier, Seigneur, donne-nous de la sagesse, donne-nous de réagir comme il faut, d'avoir la parole qu'il faut par rapport à cet homme, par rapport à cette situation, de pouvoir faire ce qui est juste, d'honorer ton nom, de te glorifier. de faire en sorte que ces personnes reviennent de la mauvaise situation dans laquelle ils se trouvent. Et même le Seigneur Jésus a pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous, parfois, eh bien, il est bon de dire la même chose. Et je pense aussi à Étienne. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur Jésus a dit, quiconque vous mettra à mort croira rendre un culte à Dieu. Et c'est complètement dans l'erreur, complètement dans la confusion. Comment par un meurtre on croit plaire à Dieu? Nous, eh bien, nous ne pouvons pas réagir d'une autre manière que celle qui nous a été donnée en exemple du Seigneur Jésus, des disciples qui ont donné leur vie, ont prié pour les autres. On prie pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui nous persécutent. Et si vous trouvez des personnes qui vous font du mal, alors priez pour elles. Intercédez auprès du trône de la grâce en faveur de ceux qui vous font du mal. Et Dieu est capable de changer le mal en bien, de transformer le cœur des personnes pour que leur mentalité, leur état d'esprit change du tout au tout. Je me rappelle, c'était en Iran, et à Téhéran en particulier, que la chose se passait. C'était un médecin iranien qui était chrétien. Et donc, bon, ça remonte à pas mal d'années. Et je pense que c'était au 19e siècle que cela se passait, si ce n'est pas au début du 20e. Alors, ce médecin chrétien était un homme d'une douceur et d'une gentillesse remarquables. Remarquables. Et puis, un jour, son plus grand ennemi est rentré dans son cabinet pour une auscultation. Parce que comme on dit, on a toujours besoin du médecin. Donc même si on est l'ennemi du médecin, il faut un jour aller le voir, le médecin, et tâcher de faire en sorte. Mais cet homme était un cœur très très dur, et il l'a insulté le médecin tout le temps de l'auscultation, de la prescription, etc. Et alors il est parti. Et le médecin a dit, mais il vous faut des soins quotidiens pour vos yeux, parce que le médecin était ophtalmologue. Et alors, le médecin a dit, mais je me propose de venir vous soigner vos yeux chez vous, tous les jours. Alors, tous les jours, le médecin chrétien allait soigner les yeux de cet homme qui l'insultait et lui disait tout le mal possible et imaginable. Et puis un jour, le chrétien s'est rendu compte que le lacet de souliers de l'inconverti était dénoué. Alors, le chrétien s'est penché, a renoué son lacet et s'est relevé. Et à ce moment-là, cet inconverti pleurait. Et plus tard, il s'est converti, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Mais c'était la douceur, la patience, la bonté, l'abnégation d'un chrétien qui accepte d'être insulté et qui a sans doute prié jour après jour, Seigneur, donne-moi les paroles vis-à-vis de cet homme, donne-moi la bonne attitude, que je sache garder le silence, que je sache recevoir des coups sans les rendre. Que je sois le chrétien que tu attends que je sois. Et il a fait sans doute ce genre de prière jusqu'au moment où, eh bien, le Seigneur lui a donné l'occasion de prouver que sa foi chrétienne, sa vie chrétienne était vraiment celle de Jésus-Christ en lui et que, eh bien, cet homme avait absolument tort, que c'était lui le misérable, que c'était lui le pécheur, convaincu de péché parce qu'il était un homme si méchant vis-à-vis de quelqu'un qui était chrétien. Nous sommes confrontés à ce genre de situation. Si vous n'avez pas été, vous le serez un jour. Vous rencontrerez des situations d'une injustice révoltante. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Comment peut-on être aussi injuste? Comment peut-on être des méchants de ce genre? Et on a tendance à vouloir répliquer de la même manière que la personne nous réplique. Satan vient nous dire, mais tu vas pas te laisser faire. Tu vas pas. Où trouvons-nous la force? C'est en se réfugiant auprès de Dieu et en lui disant, Seigneur, donne-moi les paroles, inspire-moi, que j'aie les actions qu'il faut, que je sois le chrétien qu'il faut dans une telle situation. Ce n'est pas en vain que nous prions. Nous avons le grand Dieu de notre côté, nous devons prier. L'arme du chrétien, c'est la prière. On a prié, on a attendu de Dieu qu'il nous donne la force, la solution, qu'il réponde à nos prières. Sinon, prier n'est plus prier. S'il n'y a pas de réponse aux prières, si Dieu n'intervient pas, s'il intervient comme ça parce que dans le passé il est intervenu, mais maintenant c'est un peu trop tard. Nous sommes au 21e siècle, vous vous rendez compte comment les gens sont endurcis. Et vous croyez que les gens n'étaient pas endurcis au 19e siècle, au 16e siècle, au 14e siècle? Il y a toujours eu des gens endurcis, il y a toujours eu des persécuteurs, il y a toujours eu des gens méchants sur cette terre. Et les chrétiens étaient confrontés avec ces gens méchants. Et la réponse des chrétiens par rapport à ces gens méchants, eh bien, c'était de prier pour eux, d'intercéder en leur faveur. Souviens-toi, ô Dieu, de ce que ces gens font, et viens à notre secours. Montre, interviens, agis. Nous ne sommes pas appelés à maudire, nous sommes appelés à bénir, afin que nous héritions la bénédiction, comme nous dit Pierre. Ça, c'est une chose très importante. Nous sommes méprisés, mais nous avons le grand Dieu avec nous. Alors, la quatrième prière se trouve dans Néhémie au chapitre 4. C'est le verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alors là aussi, vous n'avez pas le... Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la prière? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont demandé dans la prière? Bien sûr, c'est par rapport à ces gens qui se sont. Nous avons lu le commencement, hein, de la prière tout à l'heure. Ils ont offensé ceux qui bâtissaient. Hein, c'était Sambala, etc. Et tous ces gens qui étaient contre la reconstruction des murailles d'Israël, de Jérusalem. Alors ils ont prié. Et alors ils ont prié. Et puis, ils se sont mis au travail. Ça, c'est une très bonne chose. Beaucoup de chrétiens prient et ne font rien. Il y a une différence. De toute façon, il y a les autres qui travaillent et qui prient pas. Donc, vous avez avec les deux moitiés, on pourrait faire un bon chrétien. C'est vous enlevez le mauvais, mais si je vous gardais le mauvais, vous avez un très mauvais chrétien. Mais si vous prenez les bons côtés, les deux bons côtés, bien vous avez un très bon chrétien, qui est un bon homme ou une bonne femme de prière et un bon travailleur pour le Seigneur, et vous avez vraiment le chrétien exemplaire idéal. Mais malheureusement, souvent, eh bien, on fait la différence. Voilà, il y a ceux qui prient et ils prient, ils croient qu'ils ont fait tout le travail pour Dieu, et il y a ceux qui travaillent et ils croient qu'ils peuvent se passer de prière parce qu'ils ont bien travaillé. En aucun cas. La parole de Dieu nous enseigne une pareille chose. Au contraire, dans ce verset, eh bien, nous trouvons qu'ils ont prié et ils se sont mis au travail. La mise au travail après la prière, eh bien, c'est un acte de foi. C'est parce qu'ils ont cru que Dieu exaucait les prières, eh bien, qu'ils ont travaillé. Nous pouvons prier que Dieu touche le cœur de Paris, tous les gens, ces multitudes sans Christ. Mais si jamais nous n'allons vers eux, nous aurons peu de résultats. Il faut les deux. Il faut avoir prié et vraiment prié et être allé. Je me rappelle l'histoire, c'est l'histoire, je la connais de quelqu'un qui connaissait cette personne. Ce n'est pas quelque chose que je raconte comme cela. Le témoin oculaire était un ami à moi. Il connaissait un homme qui était le champion de la vente des calendriers en France dans les années 60. Ça nous date. Donc, il vendait 3 000 calendriers par an, un truc comme ça. C'était un nombre très important. Moi, j'en ai vendu 100 et je peux vous dire qu'il faut vraiment s'y accrocher. Hein. Il faut faire des portes et des portes et des portes et des portes. Mais il est arrivé un jour dans un village. Il faisait toutes les personnes qu'il connaissait en premier. Et puis après, il allait prospecter dans des nouveaux villages où il n'était jamais allé. Et alors il est allé, il a commencé à faire sa distribution de calendrier, et une porte fermée, et une porte fermée, et une porte fermée. Personne qui répondait, c'était vraiment des murs. Et alors là, il a dit non, c'est pas possible de continuer comme ça. Comme il descendait dans un hôtel, il est rentré dans sa chambre d'hôtel, et il a passé 3 jours dans la prière et dans le jeûne, pour que le Seigneur ouvre les portes. Et une fois qu'il a prié, passé ce temps, il y est allé. Et il a recommencé, bien entendu, toutes les portes qui ne s'étaient pas ouvertes. Et là, eh bien, toutes les portes se sont ouvertes. Et il a fait un travail dans ce village comme jamais il aurait pu imaginer qu'il pouvait faire. Tout simplement parce qu'il avait prié. Quand il a fait son travail sans prière, les portes étaient fermées. Quand ça a été fait dans la prière, une prière sérieuse, militante, consacrée, eh bien, Dieu est intervenu. Et les portes se sont ouvertes. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas le processus. Je ne sais pas comment les portes se sont ouvertes en réponse à la prière. Ça, ce n'est pas mon domaine, c'est celui de Dieu. Il connaît le chemin du cœur et il sait comment il peut toucher les cœurs et comment les portes s'ouvrent. Mais notre responsabilité à nous, c'est de mettre en œuvre ce genre d'enseignement. On travaille parce qu'on a prié, parce qu'on a intercédé, parce qu'on a lutté dans la prière. Et je peux dire, ce n'est pas parce que nous avons prononcé quatre paroles dans la prière en disant Seigneur, eh ben bénis-nous et voilà, nous allons commencer à travailler. Et puis on y est allé, que nous allons avoir des portes qui s'ouvrent. Et c'est même parfois, eh bien, une vie de prière, une vie consacrée au Seigneur, une vie où le Seigneur prend la première place. Et alors, dans ce contexte-là, Dieu ouvre les portes. Et Dieu peut dire, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons lutté dans la prière, et Dieu a ouvert la porte. Et je suis persuadé que la reconstruction des murailles, parce que si vous lisez que les murailles ont été reconstruites en 52 jours, c'est un miracle. Parce que la ville de Jérusalem est vaste. Et les murailles, on peut voir à peu près, ça fait des centaines de mètres. Le peuple qui reconstruisait les murailles n'était pas très nombreux. Et puis les murailles, c'était des murailles. Ce n'étaient pas des petites pierres, c'était des énormes pierres. Des blocs de pierre qui pesaient des tonnes. Et ils les ont déplacés, soulevés, amenés là. Ces gens n'étaient absolument pas compétents pour le faire. J'ai lu Néhémie je ne sais combien de fois. Je peux vous dire, je n'ai pas trouvé un tailleur de pierre. Oui, un orfèvre, oui. Enfin, un orfèvre, il taillait des pierres précieuses. Il ne taillait pas les pierres pour bâtir les murailles de Jérusalem. Et vous ne trouvez pas de maçon, vous ne trouvez pas de charpentier, vous ne trouvez pas ces gens-là. Vous trouvez des sacrificateurs, des parfumeurs, des marchands, des orfèvres et des gens, mais totalement incompétents pour ce genre de travail. Et en 52 jours, les murailles étaient reconstruites. Et vous dites, mais c'est un miracle. Bien sûr, c'est un miracle. Évidemment, c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle sans prière. Dieu aime Israël, alors les murailles se sont rebâties toutes seules. Pas du tout. Il a fallu prier. Il a fallu lutter dans la prière. Parce qu'ils ont lutté dans la prière, alors ils ont pu avoir la force, l'ingéniosité, l'énergie, et on ne sait pas. Même gagner du temps sur le temps. C'est quelque chose de merveilleux, et on peut dire quand même, Seigneur, il y a des possibilités pour nous aussi. Mais il ne faut pas inverser les choses. L'ordre qui est donné ici, c'est la prière d'abord, le travail après. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est parce que il y a la prière qu'il y a un travail efficace après. Et je pourrais raconter beaucoup d'autres histoires comme celles que je vous ai racontées, de prières, d'exaucement aux prières, de chrétiens qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont demandé à Dieu d'intervenir, et ils ont vu les portes s'ouvrir, ils ont vu le travail s'accomplir. Ils ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis pour que tu fasses de si grandes choses devant moi? Mais je n'ai fait que prier, je n'ai fait qu'être là. Je n'ai fait que dire simplement ces quatre paroles que j'ai dites. Et voilà, tu exauces et tu réponds et tu fais des choses merveilleuses. Oui, bien sûr. C'est parce que c'est le Dieu Tout-Puissant aussi. Et nous nous sommes adressés au Dieu Tout-Puissant. Mais il faut prier. Quand on prie, il faut vouloir ce qu'on veut. Il faut le vouloir jusqu'au bout. C'est vrai que nous avons des obstacles devant nous qui sont infranchissables, insurmontables. Et il y a une opposition de l'ennemi qui est farouche. L'ennemi est redoutable. Il a fait des projets et des plans de longue date. Il y a des gens aguerris derrière lui. Il y a des philosophies et des pensées de ce monde qui sont très fortes, qui sont nos contemporains, leur cerveau lavé par tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient à la télévision et de toutes les manières. Comment allez-vous parler de Dieu à des gens à qui on inculque que Dieu n'existe pas depuis la petite enfance? Je vous l'ai déjà dit, mes enfants, quand les instituteurs et institutrices savaient que j'étais pasteur, quand mes enfants ont dit des choses sur Dieu, on leur a dit ah non, ici c'est une école laïque, on ne parle pas de Dieu. Ah non. Par contre, dans la même année où on m'a dit ça, ils ont fait l'année des sorciers, des sorcières et du diable. Mais quand même, le diable, lui, on peut en parler comme on veut, mais du vrai Dieu, on n'a pas le droit d'en parler, c'est laïque. Alors, je fais le rapprochement. Laïque, ça veut dire diabolique. Je me dis, après tout, c'est pareil. Puisqu'on peut parler du diable sans aucune retenue, parler d'occultisme et tout ça, vous avez des... Si jamais vous voulez parler de l'évangile sur la radio, mais on va vous refuser. Par contre, les gens qui président la Bonne Aventure et les Madame Soleil et autres personnes de ce genre, eh bien, on a constamment. Si vous voulez avoir un article dans un journal, n'importe quel journal de ce monde, on va faire la grimace. Par contre, l'horoscope, vous l'aurez dans tous les journaux, tous, sans exception. Et on n'imagine même pas un journal sans horoscope, parce qu'ils savent très bien que s'ils enlevaient l'horoscope, ils ne vendraient plus le journal. Ou ils vendraient, ils perdraient les trois quarts des abonnements et des ventes. Parce que c'est ce qui fait, c'est l'article que les gens vont voir en premier. On leur inculque, on leur montre que c'est ce chemin-là et c'est pas un autre. Nous sommes devant une forteresse de l'ennemi qui est dressée devant nous. Nous pouvons avoir toute l'énergie et toute la force que nous pouvons. Nous ne réussirons rien sans la prière. Mais sans une vraie prière, sans un véritable engagement dans la prière, sans une lutte acharnée dans la prière. Parce que cet ennemi, il faut le vaincre avant de rentrer dans sa forteresse. Parce qu'il ne se laissera pas prendre comme ça. Oh, bien sûr, nous glanons une personne à droite et à gauche comme cela. Mais pour rentrer vraiment dans la forteresse, eh bien, il faut réduire l'homme fort, à notre discrétion et qu'il soit vaincu, complètement vaincu. Et alors là, comme dit le Seigneur Jésus dans cette parabole, nous pourrons piller sa maison et en faire notre place forte à nous aussi. Tant que nous n'avons pas prié, eh bien les murailles ne monteront pas. Il n'y aura pas de résultat. Parce que le vrai résultat est bâti sur la prière. Les chrétiens du passé le savaient très bien. Ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de vie chrétienne sans prière. Il n'y avait pas de mission sans prière. Il n'y avait pas d'église sans prière. Il n'y avait pas d'évangélisation sans prière. Il n'y avait rien sans prière. La prière est la clé de tout. C'est par la prière que nous allons vaincre et que nous vaincrons. C'est très important de se souvenir qu'il y a une victoire à saisir par la prière. Elle se commence dans la prière. Et si elle n'est pas commencée dans la prière, eh bien même si nous avons des résultats, ils seront faibles et souvent temporaires. Et ces personnes et ces résultats que nous avons ne tiennent pas longtemps. Et on se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'il manque l'essentiel. Il manque d'avoir assiégé le trône de la grâce, d'avoir intercédé, lutté dans la prière et d'avoir obtenu la victoire. Parce que la vraie victoire, elle se remporte d'abord dans la prière, ensuite sur le terrain. Et c'est parce que les chrétiens, les premiers chrétiens et ceux qui ont suivi dans les siècles suivants avaient compris cela, et bien que Dieu a pu leur donner les résultats qu'ils ont eus. Parce que, vous savez, le monde n'est pas plus le monde aujourd'hui qu'il n'a été dans le passé. C'est, vous prenez l'Empire romain, la décadence de l'Empire romain, mais nous trouvons exactement la même décadence chez nous. Et même, je peux dire, la décadence de l'Empire romain était bien plus grande que chez nous. C'est parce que nous n'en sommes pas encore à livrer des gens aux bêtes fauves et de regarder la vie humaine comme on coupait la gorge à quelqu'un, comme rien. L'empereur envoyait un couteau à quelqu'un et il avait l'ordre de se suicider avec. C'était tout à fait normal. Et celui qui recevait le couteau savait très bien ce qu'il avait à faire. Il savait qu'il devait s'égorger avec et puis c'est bon, il le faisait, hein. C'était tout simple. Mais nous n'avons pas encore ce genre de mentalité, et je pourrais en citer bien d'autres. Malgré tout, les premiers chrétiens ont vaincu l'Empire romain comme cela. À la fin de l'Empire romain, qui persécutait les chrétiens, eh bien, ils se sont rendus compte que 10% de l'Empire était chrétien, et pas 10% de chrétiens de nom. C'est 10% de chrétiens qui venaient passer par la plus atroce persécution qu'ait produit l'Empire romain. Il y a eu une persécution générale la plus soutenue, la plus longue à cette époque. Ces 10% étaient de vrais chrétiens qui venaient de passer par la persécution. C'étaient des hommes et des femmes aguerris, des hommes et des femmes qui n'auraient pas passé par renier Christ pour tout l'or du monde. On venait de leur proposer, ils n'auraient suivi personne qui leur aurait dit le contraire. Mais ça, ces gens-là priaient intercéder, lutter, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu. Donc, nous trouvons ici la prière et le travail ensuite. Et puis, la cinquième prière, c'est au verset 19. « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » C'est une prière personnelle de Néhémie. Il prie pour lui. Et il dit « Souviens-toi de moi, parce que j'ai beaucoup fait pour ce peuple. » On a vu dans les méditations précédentes tout ce que Néhémie avait fait pour le peuple d'Israël. Comment il avait racheté des esclaves, des juifs qui étaient esclaves, il les avait rachetés avec son propre argent pour les rendre libres. Il avait travaillé à la reconstruction des murailles. Il avait accepté même de ne pas être payé pendant qu'il était gouverneur de cette partie de la Judée. Cet homme a fait le maximum qu'il pouvait faire en faveur de son peuple. Souviens-toi de moi, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Oh, bien sûr, c'est délicat et difficile de dire, Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai beaucoup fait pour ton peuple. Est-ce que nous avons fait beaucoup? Est-ce que nous avons surtout fait assez? Est-ce que nous avons fait tout ce que Dieu nous demandait de faire? C'est une grave question. Et parfois on doit se dire, mais peut-être Seigneur, je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas été le chrétien que je devais être. Je n'ai pas prié comme il fallait que je prie. Je me rappelle Adolphe Monod, quand il était mourant, dans une de ses méditations, il dit, si je devais recommencer ma vie, je la consacrerais à plus de prières. C'est dommage, c'est dommage. À la fin de sa vie, de dire, j'ai négligé la prière. J'ai négligé la prière. Et pourtant, Adolphe Monod, qui est représenté comme un chrétien authentique et qui a vraiment donné de grandes prédications et puissantes prédications, eh bien, reconnaissait qu'il n'avait pas fait assez. Il a pu dire, non, je n'ai pas prié assez. Et pourtant, il a écrit quelque chose sur la prière qu'un jour je vous passerai. C'est quelque chose de merveilleux. Il avait bien compris ce qu'était la vraie prière. Mais cet homme, eh bien, ne pouvait pas dire, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et est-ce que nous pouvons le dire? Souviens-toi de moi, à cause de ce que j'ai fait pour ce peuple. Nous devons nous souvenir que nous n'avons pas encore fait assez, et qu'il faut encore lutter, et il faut encore prier. Et il y a des multitudes, il y a des frères et sœurs, il y a des églises, il y a, on pourrait multiplier tout ce qu'il y a. Et est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Je ne dis pas notre devoir, parce que notre devoir, ce serait normal et naturel de le faire. Mais devant Dieu, eh bien, il y a plus que notre devoir. Il y a la volonté de Dieu. Et est-ce que nous avons fait toute la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons été là où Dieu nous demandait d'être? Est-ce que nous avons dit ce que Dieu nous demandait de dire? Est-ce que nous avons été devant les uns et les autres le chrétien authentique que nous devions être? Est-ce que nous avons été un bon témoignage? Souviens-toi de moi. C'est une prière qui peut nous faire réfléchir. Parce que si cet homme pouvait le dire, je ne crois pas que beaucoup de personnes d'entre nous pourraient le dire, eux. On n'a pas fait suffisamment. Une chose, vous savez, qui est importante, c'est que nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce. Et comme nous sommes sauvés par la grâce, eh bien nous prenons tout à la légère. Nous faisons comme si, c'est par grâce, c'est normal. Mais si c'est par grâce pour nous, ce n'était pas par grâce pour Dieu, parce que Dieu a donné son Fils pour nous, afin que nous obtenions grâce. Si le prix à payer pour nous est léger, c'est parce qu'il a été lourd pour Dieu. C'est un problème presque économique. Si vous achetez quelque chose de pas cher ou d'en dessous de son prix, c'est un autre qui a payé le prix. On ne l'a pas payé assez, ou cette chose a été volée, mais de toute façon, si on ne paye pas la chose à son prix normal, il y a un problème. Nous n'avons pas payé le prix de notre salut parce que Dieu a payé le prix. Et c'est pour cela que nous avons grâce. Le mot grâce veut dire que Dieu a payé le prix inimaginable. Personne n'a payé un prix aussi lourd que Dieu a payé pour notre salut. Le sang de Jésus-Christ sur la croix nous rachète de chaque péché, nous rend crédibles devant Dieu, fait que nous sommes acceptés par Dieu seulement à cause du sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est par grâce. Mais nous, nous faisons, et c'est ce que je l'ai dit dimanche, nous abusons facilement de la grâce de Dieu. Nous faisons comme si la grâce de Dieu était une peccadille, une broutille, quelque chose de peu. Mais Dieu nous a fait grâce. Donc, puisque nous avons une si grande grâce, nous sommes redevables, d'autant plus. C'est que Dieu attend davantage de nous. Il attend que vraiment nos vies soient autre chose que des vies passivement vécues à attendre que un jour on se trouve devant Dieu. Oh ben bien sûr, Dieu m'a fait grâce, eh bien il me continuera à me faire grâce. Et un jour je serai devant le tribunal de Christ, il va avoir quelques reproches à me faire. Ben, je vais froncer les sourcils, voilà, ben, ça sera fait. Et il va dire, ben, c'est très mauvais. Tu n'as pas été le bon chrétien que tu devais être. C'est, on va pleurer un bon coup. Et j'ai même entendu quelqu'un, ben, Dieu nous essuiera toutes les larmes, tout ira bien. C'est dans l'Apocalypse, il essuiera toutes les larmes. Je ne suis pas toujours sûr que ce soit à ce moment-là qu'il va essuyer les larmes. Mais, et ce soit ces larmes-là qu'il va essuyer. Mais ce que je peux dire, c'est que on traite les choses divines, les choses vitales, les choses saintes, comme si elles ne l'étaient pas. Comme si c'était des choses de rien. Nous sommes devant un si grand salut, un si merveilleux salut. Nous avons reçu par grâce. Nous ne pouvons pas négliger tout cela. Nous ne pouvons pas mettre de côté. Il y a des choses à faire, que nous devons faire. Et comme disait quelqu'un, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Parfois, on aimerait bien que Dieu ne se souvienne pas de nous. Parce que s'il se souvenait de nous, peut-être qu'il aurait des reproches à nous faire et des châtiments à exercer sur nous. Si Néhémie pouvait dire souviens-toi de moi, beaucoup de chrétiens préféreraient dire Seigneur, oublie-moi. Laisse-moi dans mon coin, que je continue à vivre médiocrement ma petite vie médiocre. C'est comme ça, tout va bien et tout est dit et tout se vivra plus facilement. Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne était une vie en retrait, une vie où nous faisons vivotons la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie engagée, une vie militante, une vie où nous travaillons pour Dieu et avec Dieu, et surtout avec Dieu. Souviens-toi de moi. Parfois, nous aimerions que non. Nous devons avoir le courage de dire Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis parfois de dire Seigneur, souviens-toi de moi. Vois sur le chemin sur lequel je suis. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Et puis, ce que disait David dans Psaume 119, je crois que c'est lui qui l'a écrit, eh bien, il disait, cherche-moi comme une brebis perdue. Cherche-moi comme une brebis perdue. Oui, on aimerait bien à la fois que Dieu ne se souvienne pas de nous pour nous laisser tranquilles, mais si nous avons quelque honnêteté encore, eh bien, prions et disons, Seigneur, souviens-toi de moi, viens à mon secours, parce que j'ai bien l'impression que je suis un chrétien tiède. Un chrétien qui n'a pas pris au sérieux l'enseignement de ta parole, qui n'est pas conséquent avec le si grand salut que tu as offert, qui n'a pas pris la mesure d'une si grande grâce, c'est quelque chose. Nous, nous sommes habitués, nous avons reçu tellement, nous sommes dans l'abondance. Et tandis que d'autres qui sont dans la misère, misère spirituelle, quand ils reçoivent l'évangile, ils le reçoivent avec une si grande reconnaissance qu'ils sont les chrétiens les plus exemplaires que vous pouvez imaginer. Parce qu'eux voient leur déchéance et voient d'où ils sont tombés. Et ils voient combien Dieu a eu grâce et miséricorde envers eux. C'est très important de se souvenir de cela. Oui, nous avons besoin d'apprendre la prière. Nous avons besoin d'apprendre à intercéder, à lutter dans la prière. Nous avons besoin d'apprendre à ce que Dieu ait le regard sur nous et qu'il nous pose les bonnes questions. Oh, bien sûr, on n'a pas envie d'un jugement. Et même si Dieu nous juge parce que nous sommes mal conduits, eh bien, Seigneur, que ta main soit sur nous. Nous n'avons pas bien agi. Eh bien, conduis-nous dans le bon chemin. Et même si c'est avec des larmes et avec des souffrances. Eh bien, ramène-moi dans le bon chemin et que je revienne à toi et que je marche à nouveau dans tes voies, et que je fasse à nouveau ce qui est à ta gloire, ce qui te avance ton règne, ce qui fait progresser ton Église. Oui, nous devons prier, intercéder, lutter dans la prière. Ce n'est pas gagné, vous savez. Tout est devant nous. Nous avons besoin d'apprendre. Et Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, augmente-nous la foi. Ce sont des prières, vous savez. Ce sont des prières. C'est adressé au Seigneur Jésus. Les personnes qui les ont adressées, eh bien, les ont adressées comme des prières. Et ils ont dit, Seigneur, interviens, j'ai besoin. Et viens au secours de mon incrédulité.